Nous arrivons à la fin de ces études sur Israël, études ô combien délicates. Je ne sais pas si on finira aujourd'hui ou la dernière fois. Mais donc, je voudrais terminer par une réflexion qui émane d'un évêque luthérien suédois qui m'a semblé fort intéressante déjà il y a plusieurs années, quand je suis tombé sur ce petit livret. C'est pas un très très gros livre, mais c'était pour moi intéressant parce que c'était une réponse à une question que je m'étais posée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, nous étions allés dans le Vercors, dans une communauté orthodoxe, et là, nous nous entretenons avec l'archimandrite ou l'igoumène, enfin, je ne sais pas comment, quel titre ils ont là, enfin le prieur du monastère. Dans le courant de la conversation, ce dernier nous avait dit ceci. En gros, ce n'était peut-être pas les paroles exactes, mais en tout cas l'idée. Vous autres, les latins, ou les occidentaux, je ne sais pas comment il a dit, parce qu'en tant que protestants, ils nous considéraient comme latins, en quelque sorte, vous êtes influencés par saint Augustin. Et saint Augustin, donc, tout l'Occident, en quelque sorte, est modelé de la pensée de saint Augustin. Et s'il y a du bon dans saint Augustin, il y a aussi un point extrêmement négatif, quoi, hein. Et puis, bon, il avait continué, c'était une réflexion qu'il avait faite en passant comme ça. Et puis, il avait continué son propos, il n'avait pas explicité sa pensée. Et ça nous avait interpellés quand on était sortis de cet entretien. C'est qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire par là. Donc, je m'étais promis d'essayer de voir ce qu'il avait voulu dire, parce que c'était une pensée qui nous semblait quand même assez riche. Et donc, j'avais acheté ici au Grand Séminaire un énorme bouquin de plusieurs, je ne sais pas, 600 à 800 pages, je ne me souviens plus exactement, sur saint Augustin. Bon, je l'avais lu à grand-peine, et quand je l'avais fermé, je n'étais pas beaucoup plus avancé qu'en l'ouvrant. Et donc, j'étais resté sur ma faim par rapport à cette question qu'avait posée cet archimandrite. Jusqu'à ce que, quelques temps plus tard, donc, c'est en Israël, dans un des magasins évangéliques, là-bas, j'avais trouvé donc ce petit bouquin qui s'appelait « Paul et la mauvaise conscience de l'Occident ». Et justement, c'était très intéressant parce que c'était justement la réponse que, vraisemblablement, ce que l'igoumène avait voulu dire. Mauvaise conscience de l'Occident, c'est une évidence. Et plus peut-être encore dans les temps qui courent, n'est-ce pas, où nous battons notre coulpe, nous les Occidentaux, pour tous les malheurs du monde, dont en principe nous sommes responsables, en partant de l'esclavage, en passant par la colonisation, le pillage du tiers-monde, enfin bref, on est coupable de tous les malheurs qui se produisent dans le monde. Et alors, on arrive à ce stade où nos pays sont animés d'une véritable haine de soi. On le voit actuellement dans toute sa splendeur. Il n'y a plus de goût de vivre. Nous sommes tellement, tellement mauvais, tellement méchants que nous méritons de disparaître de la surface de la Terre. On ne veut plus se reproduire, d'où l'avortement, d'où l'homosexualité, d'où la contraception tous azimuts. On ne veut plus se défendre, d'où on se couche devant les pires dictateurs qu'on aide même contre ceux qui essaient justement de les abattre, etc. J'en passe des meilleurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette folie d'autodestruction, la haine de soi qui vient de la mauvaise conscience? Et d'où vient cette mauvaise conscience de l'Occident? Eh bien, cette mauvaise conscience vient, nous dit cet évêque, d'une interprétation erronée de Paul, des écrits de Paul, par saint Augustin. Alors justement, saint Augustin Paul qui a été plutôt réinterprété à partir de textes qui ont été un petit peu extrapolés, tels que Romains 7, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, etc., etc. Et qui a donc conduit à l'Occident, et c'est typique de l'Occident, l'Orient, par exemple, orthodoxe, n'est pas du tout touché par ce complexe de culpabilité. Et alors, si vous voulez, c'est ce qui a conduit à la réforme, finalement. Parce que le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge occidental était tellement culpabilisé par le poids du péché, de la faute, de la crainte de l'enfer, le purgatoire, etc., que Luther, qui était un pur produit de son temps, était véritablement tourmenté par une culpabilité dont il n'arrivait pas à se débarrasser jusqu'au jour où donc il a trouvé dans l'Épître aux Romains, donc étant justifié par la foi, bon, etc. Alors on dira que Luther était tributaire aussi de saint Augustin dans ce domaine, que saint Augustin était le premier qui avait donc souligné très fort contre Pélage la doctrine de la justification par la foi, mais saint Augustin n'était pas arrivé du tout à, si vous voulez, la certitude du salut, quoi. Finalement, il était resté dans un entre-deux, plus, notamment, justement, il avait beaucoup privilégié le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, je ne sais pas le bien que je veux, etc., et dans les confessions, notamment, hein, il a étalé ses combats intérieurs, etc., et finalement, jusqu'à son dernier souffle, saint Augustin a été animé par une mauvaise conscience. Une mauvaise conscience, nous dit notre évêque ici, que l'on ne trouve absolument pas chez Paul. Bien que Paul rappelle qu'il a été pécheur, qu'il est le plus grand des pécheurs parce qu'il a persécuté l'Église, etc., il n'y a pas chez Paul cette conscience tourmentée. Et notamment le chapitre des 7 des Romains, bon, je ne fais pas le bien que je veux, etc., mais grâce soit rendue à Dieu qui nous délivre en Jésus-Christ, quoi. Là, il y a une certitude de la délivrance, une certitude que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Paul dira dans un moment, bon, je me sens coupable de rien, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je ne suis pas coupable. Au dernier jour, on verra bien, c'est Dieu qui jugera. Hein. Mais moi, je ne me sens pas coupable. Donc, on est loin justement de cette mauvaise conscience que l'on attribue à Paul. Il souligne aussi le fait que Paul n'a jamais été comme Luther, tourmenté par le besoin du salut. Paul, avant sa conversion, entre guillemets, nous verrons justement qu'il conteste aussi ce terme, était heureux dans son judaïsme, il n'avait pas de problème. Il n'était pas du tout, il n'avait pas du tout de conscience tourmentée. Et justement, la révélation du chemin de Damas commence par lui faire prendre conscience de son péché. Parce qu'avant, il n'en était pas du tout conscient. Donc on est loin ici de saint Augustin, qui avait conscience d'être pécheur bien avant de se convertir à Jésus-Christ, et Luther, qui était dans la même situation. Donc ici, on a transposé, si vous voulez, sur Paul ce que finalement saint Augustin a fait de Paul. Il a vu de Paul un double de lui-même que Paul n'était pas. Bon. Et puis enfin, donc on arrive, nous dit notre évêque ici, à Freud. Freud qui, parce que finalement le message de Luther a été rejeté, le message de la justification a été rejeté par l'Église catholique d'une part, qui est resté dans un semi-pélagianisme. Et aussi, même justement, par un certain nombre d'églises protestantes qui, à l'image de saint Augustin, n'ont pas osé affirmer la certitude du salut. Si bien que finalement, nombre de chrétiens, même justifiés, même nés de nouveau, sont restés justement avec la mauvaise conscience. Et alors justement, on arrive à cette explosion de la mauvaise conscience au XIXe siècle, où Freud, pour essayer justement de surmonter cette situation, lui apprend une solution tout à fait radicale. La solution de Luther était justification par la foi. Freud nous dit négation de la faute. L'homme n'est pas coupable. Hein ? Il n'y a pas de faute, il est conditionné par toutes sortes de choses. Donc, voilà. Négation de la responsabilité humaine, donc négation de la faute. Mais, justement, qui ne résout rien. Car si elle déculpabilise l'individu, elle culpabilise la communauté. Et la culpabilité individuelle est maintenant transférée à la communauté nationale et même, on dirait, la communauté occidentale dans tout son ensemble. L'individu ne se sent pas coupable, il est capable de commettre les pires des abominations, de se vautrer dans l'immoralité, l'homosexualité, etc. Mais par contre, il a collectivement une mauvaise conscience. Donc finalement, Freud n'a rien résolu. Et finalement, l'Occident se trouve là, aujourd'hui, dans cette situation où il est redevable, en quelque sorte, à saint Augustin. Et là, on a la réponse de notre archimandrite. Je pense que c'est à ça qu'il faisait allusion. C'est pas qui est responsable de cette mauvaise conscience de l'Occident. Bon, voilà, ça c'est grosso modo. Maintenant, on va entrer dans le détail, si vous voulez, pour revenir à ce qu'on a dit. Bien. Il y a un texte que, justement, saint Augustin a privilégié dans la biographie de Paul. C'est Paul, quand Paul dit, n'est-ce pas, qu'il regarde toute chose comme de la boue. Hein. Bon, seulement ce que saint Augustin a oublié de dire, c'est que cette boue dont Paul parle, ça n'est pas son passé de pécheur, quand on lit le contexte, mais c'est au contraire ce qui fait partie de son passé glorieux, ce dont il pourrait justement se glorifier. Le fait qu'il soit juif, le fait qu'il soit pharisien, le fait qu'il soit même persécuteur de l'Église, c'est un titre de gloire en quelque sorte pour lui. Et toutes ces choses qui pourraient être des valeurs positives pour lui, des choses dont il pourrait se glorifier, il les regarde comme de la boue. Donc ça n'a rien à voir avec le péché. Hein. Et donc ça n'a rien à voir non plus avec une mauvaise conscience. Hein. Et maintenant, et c'est là justement que nous arrivons à notre propos par rapport à Israël et la Torah. Hein. Ce qui est décisif pour Paul quand on lit ses épîtres, c'est l'incapacité de l'être humain de garder la Torah. On trouve ça par exemple dans Romains 2, verset 7, Galates 3, verset 10. Et c'est la raison pour laquelle, parce que l'homme est par lui-même incapable de garder la Torah, il a besoin d'un salut qui lui soit extérieur et qui est offert donc aux Juifs qui sont sous la Torah et aux païens qui ne connaissent pas la Torah. Voilà. Ça, c'est donc, si vous voulez, le point de départ de la théologie de Paul. Maintenant, donc, saint Augustin, lui, s'est complètement trompé dans son analyse de Paul, qu'il a, en quelque sorte, imaginé comme étant le prototype de tous les pécheurs, qui, avant de se convertir à Jésus, ont besoin de voir, justement, de se voir, en quelque sorte, condamnés par la Torah. Condamné par la Torah, alors que finalement Paul n'a pas été condamné par la Torah, il a été condamné par le Seigneur hein, sur le chemin de Damas. Donc ici, c'est tout à fait différent, c'est pas de ce qu'a été l'attitude de Luther qui relègue la Torah à n'être finalement qu'un instrument pour faire prendre conscience à l'homme de son péché et de son besoin d'un sauveur. Paul nous dit simplement non, l'homme n'est pas capable de suivre la Torah, ça n'a rien à voir avec le péché, c'est tout simplement l'incapacité de l'homme. L'incapacité, bien sûr, qui vient du péché, indirectement, mais là, ça n'a rien à voir avec la mauvaise conscience. Tout simplement, le péché est tel dans le cœur de l'homme qu'il le rend incapable de suivre la Torah. Bien. Alors, les églises orientales insistent bien davantage, si vous voulez, que par exemple les liturgies des églises orientales, c'est très intéressant de voir ça. Bon, les liturgies occidentales, les églises occidentales sont en général très pénitentielles. Hein, tandis que les liturgies orientales sont beaucoup plus, on appelle en théologie, doxologiques, ça veut dire elles glorifient Dieu. C'est glorifier Dieu. Et au besoin, bien sûr, on va se repentir de ses péchés, mais ça ne commence pas par ça. D'abord, c'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, pour sa gloire, pour sa grandeur. Alors, les réformateurs sont tombés, évidemment, dans le même travers. Considérer, et c'est Luther, c'est typique chez Luther, moins chez Calvin, mais surtout chez Luther, considérer que tout homme doit, en quelque sorte, faire le cheminement d'un juif sous la loi, finalement, ce que Shalom ben Horin, par exemple, décrit dans son livre, prendre conscience que le péché, de son péché par la révélation de la Torah, etc., et que c'est le but de la Torah. Bien. Justement, ce que Paul veut prouver dans ses écrits, c'est que le païen n'a pas besoin de la Torah pour être sauvé. Pas même, justement, comme préalable à la démarche du salut. Il n'a pas à faire la démarche d'un juif, même dans ce domaine-là. Et quand Paul, par exemple, Galate, parle du pédagogue, il montre par là que il n'est pas du tout nécessaire d'intégrer les païens à la Torah pour qu'ils soient sauvés. Il peut le faire directement par Jésus-Christ. C'est intéressant, par exemple, de noter que quand il prêche à des païens, Paul n'évoquera jamais la Torah. Il ne fera pas ce que ferait, par exemple, ce que faisait Luther, que ce soit à Lystre ou que ce soit à Athènes, aux philosophes, n'est-ce pas ? Il ne commence pas par dire « Dieu a donné à Israël la Torah et par conséquent, cette Torah vous condamne, comme, etc. » Non, aux Romains, il dit le contraire. Ceux qui ont péché avec la Torah périront malgré la Torah. Ceux qui ont péché sans la Torah bien, seront jugés sans la Torah, c'est tout. Et là, donc, Paul annonce un jugement aux Athéniens, mais sans référence à la Torah. C'est très intéressant de le noter. Et ça, justement, c'est ce que les réformateurs n'ont pas vu. Le grand péché de Paul, bien sûr, ça a été d'avoir été persécuteur de l'Église. Et ça, il l'a fait par consécration et obéissance à la foi juive. Et il rappelle à plusieurs reprises qu'il l'a fait en toute bonne conscience. Il a péché gravement, et ça, il ne minimise en rien la gravité et l'horreur de son péché, mais il précise justement qu'il l'a fait en toute bonne conscience. Donc on est loin justement de la mauvaise conscience. Et alors justement, là c'est très intéressant que très souvent, Paul affirme sa bonne conscience. « Je sers Dieu avec une conscience pure. Ma conscience me rend témoignage quant à ses sentiments par rapport à son peuple d'Israël, par exemple, etc. » Alors évidemment, il y a le texte de Romains 7, « Je ne fais pas le bien que je veux. » Mais là, justement, ce n'est pas obligatoirement son expérience que Paul... Enfin, c'est son expérience aussi, mais il se place, si vous voulez, comme l'homme, avec un grand H. Tout homme, finalement, se trouve déchiré entre, même pas ce que le commandement dit, mais finalement ce que sa conscience lui dit, justement. Qu'il sait être bien ou qu'il croit être bien, et finalement, il n'arrive pas à atteindre, justement, cet idéal du bien, même si cet idéal du bien, il n'est pas obligatoirement, justement, celui de la Torah, que la plupart des païens de son temps ne connaissent pas. Alors, là, Paul arrive à une autre question très importante. La Torah est-elle péché ? Non, dit-il, mais elle est affaiblie par le péché. Elle est, en quelque sorte, comme un remède efficace. Un bon remède, c'est pas un poison. Mais le malade est dans un tel état que ce remède est trop faible pour le guérir. C'est finalement l'idée. La gravité du malade est telle que un remède aussi important que la Torah ne peut pas le guérir. Qu'est-ce qui amène cela ? Le péché. Le péché dans la chair, c'est lui qui fait justement que la Torah est incapable de changer fondamentalement le cœur de l'homme. Et ça, c'est justement la grande différence entre finalement la théologie de Paul et la théologie juive jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est évidemment la théologie catholique, c'est l'idée que la chute, et ça c'est le grand mérite des réformateurs de l'avoir ressouligné, d'avoir redécouvert au moins ça chez Paul, n'est-ce pas, que la chute atteint l'homme d'une manière radicale dans toutes les fibres de son être. L'homme est déchu totalement. Alors que dans le système catholique, chez Thomas d'Aquin par exemple, n'est-ce pas, l'homme est déchu, oui bien sûr, mais... il a quand même encore une possibilité, quand il est régénéré, de faire le bien. Tandis que Paul dit non. Même en tant que régénéré, après sa régénération, l'homme ne pourra pas atteindre la perfection morale tant qu'il sera sur la terre. Ça me paraît assez clair de ce que Paul écrit. Et alors, justement, les réformateurs, plutôt les juifs, les théologiens juifs, par réaction souvent antichrétienne aussi, d'ailleurs, je parle ici plus du judaïsme actuel que du judaïsme, bon, il y avait un peu ça à l'époque de Paul aussi, mais peut-être avec plus de nuances, il y avait des mouvements, c'était plus divers à l'époque, il y avait des mouvements qui étaient peut-être un petit peu différents. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, la théologie juive dit, l'homme, bon, il y a eu la chute a entraîné la mort, mais elle n'a pas touché le caractère moral de l'homme. Et moralement, l'homme est neutre. Il peut choisir indifféremment le bien ou le mal. Il est parfaitement libre. Tandis que Paul dit, non, je suis esclave du péché. C'est justement la grande différence. C'est tout le thème du chapitre 7. Je ne peux pas faire le bien que je veux, quand bien même je le veux. Et quand bien même la Torah me montre le chemin que je dois suivre, je ne peux pas. Car même si je m'affectionne au commandement que la Torah me donne, ce commandement qui est bon, juste et saint, comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, la loi du péché et de la mort qui est en moi me rend incapable de mettre en pratique le commandement. Voilà, c'est irrémédiable, c'est irrévocable. Il ne peut pas y avoir de salut en soi-même. Il ne peut pas y avoir dans l'homme, dans les ressources de l'homme, dans sa psychologie, dans sa spiritualité, dans quoi que ce soit, aucun espoir de se sortir de cette situation. La seule possibilité de s'en sortir, c'est l'œuvre du Seigneur. Voilà. Et c'est le chapitre 8. Qui me délivrera de ce corps de mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Non seulement l'homme est atteint dans sa volonté, mais il est atteint aussi dans sa compréhension, dans son entendement. Et quand bien même justement, sa volonté serait-elle du côté de Dieu, cette volonté est annihilée par la force du péché qui est en lui. Et alors, justement, l'œuvre du Seigneur, eh bien, transforme cette situation. Dans ce sens que, en Jésus, par la foi en Jésus, nous sommes dans une situation nouvelle, où nous pouvons, malgré cette infirmité de notre chair, être appelés enfants de Dieu. Et alors justement, cette idée que chacun d'entre nous est un juif légaliste, doit devenir d'abord un juif légaliste dans son cœur, avant de devenir chrétien, on ne trouve pas ça chez Paul. On ne trouve pas ça chez Paul. Bon, par contre, on trouve ça constamment dans la théologie chrétienne, y compris dans nos cantiques, ce cantique que nous ne chantons jamais pour cause, n'est-ce pas, celle de la foi, « Seigneur, tu m'as affranchi du fardeau de la loi, etc. » Bon, pour les païens de l'Istre, pour les philosophes d'Athènes, la loi n'avait jamais été un fardeau. Parce qu'ils ne la connaissaient même pas. Ils ne savaient même pas, la plupart d'entre eux, qui avaient une Torah. Alors, comment pouvait-il donc être... Bon, est-ce à dire pour autant qu'ils étaient innocents? Non, dit l'apôtre Paul, et c'est tout le premier chapitre des Romains. Parce qu'ils sont une loi eux-mêmes, dans leur cœur. Il y a quelque chose qui s'appelle bien, même si ce bien-là n'est pas toujours exactement celui que la Torah définit, mais il y a quelque chose qui est là. Et finalement, chacun sera jugé selon ses propres critères de jugement. On te mesurera avec la mesure dont tu as mesuré les autres. C'est ça, dit l'apôtre Paul, qui se passera pour ceux qui n'ont pas connu la Torah. Alors, une chose qu'on n'a pas vue, nous dit notre évêque ici, hein, c'est que un des traits essentiels des écrits de Paul, le souci de Paul, ce sont les relations entre les juifs et les païens dans l'Église. C'est ça, nous dit-il. Et finalement, Paul définit cette théologie de la justification par la foi pour défendre les droits des païens auprès des chrétiens judaïsants. Voilà justement la thèse centrale de notre évêque ici. Finalement, être héritier de Dieu dépend uniquement de la foi en Jésus-Christ. Voilà le message que veut faire passer Paul. Et non pas de l'appartenance au peuple de l'Alliance. Ça veut dire de l'appartenance au peuple d'Israël. Et c'est justement la grosse question qui était celle de Jérusalem dans Acte 15, n'est-ce pas ? Comment les païens peuvent-ils être héritiers de Dieu ? Est-ce qu'il faut au préalable qu'ils deviennent juifs ? Et c'était toute la question qui avait été posée à Jérusalem. Et contrairement à ce que la plupart des commentateurs imaginent quand ils étudient l'Épître aux Romains, le but de Paul n'est pas d'écrire un traité de justification par la foi auquel il aurait ajouté un petit appendice, les chapitres 9, 10 et 11, sur les relations entre juifs et païens, mais justement, c'est cette relation entre juifs et païens est centrale dans son propos. Parce que justement, à Rome, il y a dans l'Église de Rome des juifs et des païens. Comment se situent-ils les uns par rapport aux autres? Et donc ici, le but de Paul, c'est de montrer aux Romains comment sa mission à lui, Paul, apôtre des gentils, s'inscrit dans le plan de Dieu. Et là, justement, c'est de montrer que sans la Torah, sans recours aucun à la Torah, c'est-à-dire à l'appartenance au peuple juif, les païens peuvent devenir héritiers du salut, héritier du royaume de Dieu, au même titre que les Juifs, sans aucun recours à une quelconque appartenance au peuple juif. Voilà, ça, c'est ce que Paul défend, bec et ombre, dans tout son ministère. Et c'est ce qui lui sera contesté constamment par ce qu'on peut appeler, justement, les chrétiens judaïsants, qui disent, il faut, c'est tout le problème des Galates, il faut, au préalable, que les païens soient circoncis. Donc, d'une certaine manière, qu'ils entrent dans une certaine judéité, même si pour Paul, finalement, le christianisme est le prolongement du peuple juif, et le judaïsme étendu à toutes les nations, mais pas à l'appartenance au peuple juif en tant que peuple. Ils restent ceux qu'ils sont. Alors comment la mission de Paul s'inscrit-elle dans le plan de Dieu? C'est tout le sujet des Romains. Paul voit que l'Église est en passe de devenir essentiellement païenne. Dieu continue à avoir un plan pour Israël, c'est vrai. Et ici, ce qui est important, c'est ces relations entre juifs et chrétiens. Et finalement, ce que ici l'apôtre Paul appelle être sous la loi, ça n'est pas tellement comme l'ont pensé les réformateurs. S'imaginer qu'on va être sauvé par la pratique d'œuvres morales, là c'est l'erreur totale. Les œuvres de la loi, c'est la circoncision, c'est le Shabbat, c'est la cacheroute, c'est finalement tout ce qui est ordonnances légales spécifiques au peuple d'Israël et qui font que le peuple d'Israël est le peuple d'Israël. Et comme si ces choses donc étaient indispensables au salut. Et c'est tout le problème des Galates. Et là, justement, c'est là qu'il nous faut parler, nous dit notre évêque, de vocation pour Paul plutôt que de conversion. Conversion, c'est dans notre langue l'idée qu'il y a un changement de religion. En fait, ce que Paul reçoit, outre effectivement sa nouvelle naissance, pouvons-nous dire, je crois que c'est plus juste d'employer ce mot, il naît de nouveau, mais ce qui est aussi, aussi central, je dirais, dans ce qui se passe sur le chemin de Damas, c'est sa vocation au service de Dieu. Et c'est comme ça que Paul le conçoit quand il raconte lui-même, à deux ou trois reprises dans le livre des Actes, ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Le Seigneur qui lui apparaît lui demande à lui, Paul le juif, et quel juif? Le juif pharisien, le juif ultra-religieux, le juif intolérant, de porter ce message qu'il vient de découvrir, ce message du salut en Jésus-Christ à toutes les nations. Et c'est ça qui provoque aussi, d'ailleurs, son arrêt de mort, si j'ose dire, quand il dit, il rappelle que le Seigneur lui dit dans le temple de Jérusalem, « Va, je t'enverrai vers les nations. » Il écoute jusque-là, nous est-il dit. Et puis là, le tumulte se déchaîne, cet homme n'est pas digne de vivre. Or, pour Paul, c'est bien ce qui était central dans sa vie, dans son ministère. En Galates 1, versets 13 à 16, Paul explique ce qui s'est passé et il évoque aussi au centre, n'est-ce pas, cet appel du Seigneur, cette vocation spécifique qui lui est adressée d'être l'apôtre des nations. Et là donc, c'est finalement la même veine que celle des prophètes. C'est une vocation comme celle d'Ésaïe, comme celle de Jérémie, comme celle de tous les grands prophètes auxquels le Seigneur apparaît en disant « je t'envoie vers le peuple d'Israël ». Je t'envoie avec tel et tel message, etc. Paul est en quelque sorte ici investi d'une mission prophétique et qui se manifeste envers les nations, comme le Seigneur avait dit qu'il enverrait ensuite des hommes vers les nations, comme Jonas avait été envoyé vers les nations. Et c'est là justement cet appel vers les nations qui amène chez lui cette nouvelle compréhension de la Torah. Encore une fois, ce qui est important ici, c'est plus la circoncision. Pour les judaïsants, c'était la circoncision. Nous voyons que, par exemple, aux Romains, justement, sur la question de la cacheroute, Paul est tolérant. Il dit, bon, si certains veulent manger cachère, après tout, c'est indifférent. Voilà. Toutes ces ordonnances légales du judaïsme, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien. Bon, si quelqu'un veut le faire, bon, discutez pas avec lui, discutez pas de ses opinions. Laissez-le faire. Et même aux Corinthiens, il dira, pour ne pas scandaliser ton frère, si par exemple, le fait de manger une viande parce qu'elle aurait éventuellement été sacrifiée à une idole peut le choquer, c'est ta liberté, tu as le droit de le faire, c'est pas le problème. Mais par affection, par amour pour ton frère, le choque pas, le scandalise pas, ce serait pas agir dans l'amour. Renonce à ton droit, renonce à ta liberté, accepte même quelque injustice, si j'ose dire. C'est ça l'amour du prochain. Et il rappellera justement aux Galates qui sont tellement entichés de la Torah, en disant, portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez la Torah. C'est ça, la Torah n'est pas contre ces choses du tout. Donc il y a une certaine tolérance. Mais là où Paul est absolument intransigeant, c'est sur la circoncision. Et ça c'est tout le problème des Galates. Car la circoncision est vraiment l'acte par lequel quelqu'un est assimilé au peuple d'Israël. Et là, pour un païen, c'est inacceptable. Je lisais Decaux dernièrement. Decaux, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il dit. Bon, c'est un livre, bon, il a, c'est pas parole d'évangile, il a écrit un livre sur Paul. comme je dis, c'est pas par l'évangile, mais il y a quelquefois des concessions libéralisme qui feraient que c'est pas un livre qu'on pourrait mettre dans la bibliothèque ici. Mais enfin, c'est un homme de foi, il a dit des choses intéressantes. Et notamment, il a bien compris cette opposition farouche de Paul à la circoncision des païens. Et alors, il arrive au moment où Paul circoncit Timothée. Et là, il dit, Paul, je te comprends plus. Il l'interpelle. Il dit, Paul, je te comprends plus. Là, tu te contredis toi-même. Mais non, Paul ne se contredit pas. Là, on en a affaire à quelqu'un qui est la mère de Timothée était juive et son père ne l'était pas. Donc, selon la halakha, il était juif. Et là, Paul le circoncit. Et il dit, à cause des juifs. Justement, pour qu'on ne puisse pas dire que lui, il trahit en quelque sorte sa race. Dans ce cas-là, c'est illicite. Mais pour un païen, quelqu'un qui n'a aucune racine juive, Paul est intransigeant. Là, c'est une trahison, parce que c'est laisser entendre que pour être sauvé, il faut appartenir au peuple juif et qu'on ne peut pas être sauvé en dehors du peuple juif. C'est ça la question. Le légalisme, il est là. Tout ce qui pourrait faire penser qu'il faille faire partie du peuple juif pour être sauvé. Bon, pour Paul, la Torah a été donnée donc par des anges, il le dit, ça veut dire une deuxième version, vous savez que les premières tables ont été brisées, parce que justement, la Torah tient compte des péchés et des faiblesses du peuple. On trouve ça chez Jésus aussi, au moment où il est question du divorce. Moïse vous a autorisé de donner une lettre de divorce à votre femme, à vos femmes, à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, dans la volonté parfaite de Dieu, il n'en était pas ainsi. Maintenant, justement, quand il est question de la justification, eh bien, nous trouvons exactement la même pensée. Quand nous lisons Galates 3, verset 20, on va le faire. Hein. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance et par qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, ce qu'on disait. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. Alors justement, certains ont interprété, Luther par exemple, et même Calvin, que tout chrétien doit d'abord être éduqué par la Torah avant de pouvoir devenir chrétien. Et donc, que c'est comme ça, seulement comme ça, qu'il va être, amené à reconnaître son besoin d'un sauveur. Bon, je ne vais pas dire que ce soit toujours négatif. Ça peut être comme ça parfois. Hein, mais ici, ce n'est pas ce que Paul veut dire. C'est tout simplement ça. Et Paul n'a jamais voulu dire que tout chrétien devait obligatoirement faire ce cheminement-là. Alors vous me direz, Paul dit pourtant aux Romains, je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. Ben oui, ils ont appris la Torah après leur conversion. Hein. C'est pour certains d'entre eux avant, d'autres pour certains après. Paul, au contraire, tout le propos de Paul aux Galates, c'est de leur dire justement qu'ils peuvent venir au Seigneur sans aucun recours à la Torah. Ils peuvent venir directement au Seigneur. Ils ont un accès immédiat au Seigneur, sans justement avoir besoin de passer par la Torah. Et quand on fait cette lecture de ce verset, on se méprend entièrement. On fait dire à Paul exactement le contraire de ce qu'il veut dire dans l'Épître aux Galates. Et au contraire, ce que Paul veut dire, c'est que pour les Juifs, elle a été un pédagogue. Un pédagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui, en quelque sorte, les empêchait. Ça, c'est l'audace de Paul dans cette Épître. Les empêchait d'arriver en pleine possession de toutes les promesses de Dieu jusqu'au temps fixé. Pour qu'il ne participe pas à ses richesses sans les païens. Et c'est ça que Paul veut montrer aux Galates, l'extraordinaire miséricorde de Dieu envers les païens. Dieu a mis en quelque sorte des barrières, même à son propre peuple, pour qu'il n'arrive pas à cette richesse extraordinaire d'une justification, justement, directe par le Seigneur. Jusqu'au temps fixé, pour que les païens aussi ne soient absolument pas défavorisés. Que quand les temps sont accomplis, que la promesse accomplie pour Israël, les païens puissent aussi y avoir part. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est un des grands messages de l'apôtre Paul qu'on n'a pas véritablement compris. Le but de Paul, c'est de défendre justement la place des païens dans le royaume de Dieu, ce qui est son appel. Il a été appelé à ça, justement. Il est l'apôtre des païens. Et les païens ont le même accès au Seigneur. Et c'est pourquoi il s'en prend à Pierre. Car Pierre, quand justement il va se séparer des païens, laisse entendre que justement ces derniers ne sont pas véritablement membres du royaume de Dieu à part entière autant que les juifs ont une supériorité sur eux. Et ça, pour Paul, c'est absolument inacceptable. Ce que fait Paul, c'est qu'il défend mordicus bec et ongles le droit des païens. Donc, si vous voulez, l'épître aux Romains est surtout le plan de Dieu pour le monde. C'est une grande fresque. Et comment la mission de Paul s'y inscrit ? Paul est conscient de jouer un rôle particulier dans le plan de Dieu. Un rôle comme un des grands prophètes d'Israël, quoi. Alors certains pourront dire que c'est de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement la réalité. Il a été choisi par Dieu pour ça, c'est tout. Les autres apôtres, ils n'ont pas cette vocation-là, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants que lui. Mais lui, il a cette vocation. Il a un rôle qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Parce qu'il est appelé à être justement l'apôtre des païens par excellence. Et c'est pourquoi il n'admet pas un seul instant que les droits des païens puissent être amenuisés en quoi que ce soit, justement, dans aucun domaine, finalement. Finalement, pour païens et juifs, la loyauté à Yeshua est la clé du salut. Somme toute, les imperfections ne remettent pas ce salut en cause. Les imperfections inévitables de chaque être humain ne remettent pas fondamentalement ce salut en cause, évidemment, à condition qu'on s'en détourne et qu'on se repente. Et ce faisant, eh bien donc, ici, c'est vraiment une ère nouvelle qui s'ouvre. La Torah, à l'époque de Paul, quand on parle de la Torah, c'est essentiellement trois choses. La circoncision, la cacheroute et le Shabbat. Respecter la Torah, pour un juif de l'époque de Paul, et pour beaucoup de juifs aujourd'hui encore, c'est essentiellement ça. Et ces trois éléments sont ce qui constitue l'identité juive. Plus encore à l'époque de Paul que de nos jours, puisqu'aujourd'hui on peut être juif, athée, etc., ce qui était impensable à son époque. Et ce sont ces trois éléments qui maintiennent la frontière entre juifs et païens. On est juif parce qu'on est circoncis, tandis que les païens sont incirconcis. On est juif parce qu'on mange cachère et que les païens ne le font pas. On est juif parce qu'on garde le Shabbat et que les païens ne le font pas. Or, justement, nous dit l'apôtre Paul, déjà, Jésus lui-même a, par sa venue, brisé les frontières, déjà de son vivant. Il a brisé les frontières entre les justes et les injustes, au grand scandale, justement, des légalistes de son temps. Il mange avec les pécheurs, il fréquentait, enfin, ça pourrait être ambigu, il avait de la compassion pour les prostituées. Enfin, il ne les fréquentait pas, bien sûr, mais il avait de la compassion pour elles, il n'hésitait pas à se laisser oindre par elles, etc. Les publicains, les gens de mauvaise vie, manger avec eux, etc. Grand scandale. Bon. C'est qu'effectivement, l'œuvre de Jésus brise les barrières. C'est l'œuvre du royaume de Dieu. Et déjà, Jésus le fait plus ou moins avec les païens, notamment c'est typique dans Marc 7. Marc 7, il y a déjà une amorce de la théologie de Paul. Bon, j'y reviens pas. Par conséquent, dit Paul, puisque Jésus a fait éclater les barrières entre justes et injustes, pouvons-nous aussi faire éclater les barrières entre juifs et païens. Car comme nous lisons dans l'Épître aux Galates, les païens sont considérés par les juifs de son temps comme des pécheurs. Et c'est ce qu'il dit à Pierre. Nous, dit Paul, c'est-à-dire toi et moi, Pierre, et moi, Paul, toi et moi qui sommes juifs de naissance et non pas pécheurs d'entre les nations. Voilà. Les païens sont des pécheurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas de contact avec eux. Comme on n'avait pas de contact avec les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Et voilà, justement. Jésus a mangé avec les publicains, les prostituées, les pécheurs. Et toi, Pierre, tu ne veux pas manger avec les païens ? Ça veut dire que tu les considères encore comme des pécheurs. Tu fais ce que Jésus n'aurait pas fait. C'est ça, le nœud du conflit entre Paul et Pierre à Antioche. Ça va beaucoup plus loin que le fait de ne pas manger, c'est que tu les reconnais pas comme entièrement justifiés. Ça veut dire que quelque part, pour toi, ils sont encore pécheurs. Parce qu'ils sont païens. Parce qu'ils ne sont pas circoncis. Inacceptable, Pierre, inacceptable. Alors, ça, c'est une chose extrêmement importante. Ce que Paul rejette quand il parle de être sous la Torah, c'est pas les bonnes œuvres, comme on l'a cru et on le croit encore dans certains milieux. Mais l'observation de ces trois aspects, essentiellement, d'autres aussi, mais essentiellement ces trois, comme attestation que l'on appartient bien au peuple de Dieu. Et c'est ça que Pierre est en train de faire à Antioche. En se séparant des païens, il dit, moi, je ne suis pas un pécheur des nations. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Donc, Pierre, tu laisses entendre que les païens, même justifiés par Jésus, n'appartiennent pas vraiment au peuple de Dieu? Pas question. Ça, c'est pas acceptable. Alors, selon l'Écriture, c'est vrai, Israël est le peuple de Dieu. Mais on trouve effectivement dans la Torah l'idée qu'il y a pour le peuple d'Israël le pardon et l'expiation. Mais pour pouvoir avoir droit au pardon et à l'expiation tel que justement la Torah le conçoit, c'est-à-dire essentiellement par les sacrifices dans le temple, il faut appartenir au peuple d'Israël, il faut être dans le peuple d'Israël. Donc être dans la Torah. Et nous avons vu qu'il y avait justement ce mur de séparation entre le parvis des païens dans le temple et puis le parvis d'Israël. Vous ne pouvez pas le passer sans être mis à mort. Et vous vous souvenez qu'on avait accusé Paul justement d'y avoir introduit Tite, qui n'était pas juif. C'est pour ça que Paul a été arrêté. Or, justement, Paul rompt avec ce schéma. Et ce qu'il conteste, c'est pas tant le fait de faire des œuvres méritoires, il l'aurait certainement contesté. Mais ce n'était pas ça qui était en cause à cette époque-là. Ce n'était pas le fait. On n'est pas ici dans la querelle qui était celle du XVIe siècle. C'est vrai, au XVIe siècle, est-ce qu'on peut être sauvé par ses bonnes œuvres? Mais le problème n'est pas là, la question n'est pas là. Pour avoir droit à l'expiation? Expiation dont nous sommes bien d'accord, maintenant elle est venue par Jésus, pour les juifs croyants en tout cas, pour les judaïsants, c'est pas ça la question. Mais même pour avoir droit à l'expiation que Jésus a accomplie en tant que grand prêtre, il faut être dans le peuple d'Israël. C'est ce que pensent les judaïsants. Et Paul dit non. Même sans appartenir au peuple d'Israël, on peut être vraiment sauvé. Et là, justement, Paul se réfère, il tire en quelque sorte une halakha de la conduite de Jésus, telle qu'on la trouve justement dans le chapitre 7 de l'évangile de Marc, quand il mange avec des païens, quand il mange avec des pharisiens, qui plus est ne se sont pas lavés les mains, donc en état d'impureté totale. Et Jésus donne une autre halakha, une halakha nouvelle, l'halakha du royaume. Il mange avec des pécheurs. Bon, il donne une autre signification au Shabbat. Honorer Dieu le jour du Shabbat, c'est faire du bien. Le vin nouveau dans les vieilles outres que Jésus, donc, parabole que Jésus donne à la suite de ces discussions qu'on trouve dans Marc 7, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'inaptitude de l'ancienne halakha des pharisiens pour la situation nouvelle qui est donnée. Le but de Jésus est de rassembler tout Israël, puis ensuite de rassembler, comme le dira l'apôtre Jean, n'est-ce pas, en un seul corps, tous les enfants de Dieu dispersés, y compris les païens. Par conséquent, les vieilles outres de la halakha traditionnelle des pharisiens n'est plus adaptée. Il y a une réalité nouvelle à laquelle, justement, comme l'aurait dit n'importe quel rabbin, eh bien, puisque la réalité est nouvelle, il faut adapter la Torah qui ne change pas. Mais il faut l'adapter à la réalité nouvelle. La question de Jésus n'est pas s'il faut ou non garder le Shabbat, mais comment ? Le Shabbat est au bénéfice de l'homme. Et par conséquent, c'est en manifestant l'amour du prochain que l'on honore Dieu et que l'on honore aussi le Shabbat. Et là donc nous avons affaire à des textes les plus anciens de la littérature paulinienne qui font référence à l'attitude que Jésus lui-même avait vis-à-vis de la Torah. Et finalement, contrairement à ce qu'on a dit, l'attitude de Paul vis-à-vis de la Torah n'est pas tellement différente de celle de Jésus. On a dit Jésus était un juif qui gardait la Torah, tandis que Paul était un juif qui s'était séparé de la Torah, c'est pas vrai. L'un et l'autre étaient véritablement des gens qui respectaient la Torah, mais qui disaient qu'il y a une situation nouvelle. Bon, il faut adapter, comme on fait toujours dans le judaïsme, il faut s'adapter à la situation nouvelle. Et finalement, les marques de l'élection, c'est pour Paul, et ça c'est ce qu'il dit aux Galates, c'est pas tellement la circoncision et tout ce qui en découle, eh bien c'est la foi et l'amour, ce qu'il appelle le fruit de l'esprit. Et il dit, ben, la Torah n'est pas contre ces choses. C'est au contraire l'accomplissement de la Torah. Alors, là on voit que il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Paul s'élève contre l'idée, en résumé, qu'il faut appartenir au peuple d'Israël pour être sauvé. Encore une fois, les œuvres de la Torah ne sont pas les bonnes œuvres, comme le pensait Luther, mais justement, essentiellement la circoncision. Et pour Paul, ces choses sont relativisées. L'alliance n'est donc plus le privilège des Juifs, mais cette alliance est élargie à tous les hommes. Ce que Paul rejette, justement, c'est cette appartenance au peuple d'Israël pour être sauvé, ce qu'il appelle se glorifier dans la chair, c'est-à-dire dans la circoncision. Se glorifier de son ascendance juive. Ce que disaient les pharisiens à Jean-Baptiste, nous avons Abraham pour père, par conséquent, nous n'avons besoin de rien d'autre. Paul se dresse justement contre ce qu'il appelle ses œuvres de la Torah, plus que sur la Torah elle-même. C'est la Torah en tant que monopole national d'Israël que Paul conteste. Mais le fait d'aimer son prochain est justement l'accomplissement de la Torah. Et s'il faut se glorifier, c'est d'aimer son prochain et non pas d'autre chose, n'est-ce pas ? Non pas de ses origines juives et ces choses qui étaient pour lui des gains, justement. C'est ça qu'il regarde comme de la boue et pas son péché. Et alors, justement, ce qui est important, c'est cette relation spéciale avec le Seigneur qui est rendue possible pour tout homme, juif ou païen, quand il est en Jésus-Christ. Voilà, je crois que là, nous avons terminé, si vous voulez, nos études sur l'israélologie. Je crois que là, bien sûr, on pourrait dire encore beaucoup d'autres choses. Mais finalement, j'évoquais tout à l'heure une parole d'un vieux pasteur, frère Émile Lallière, si certains d'entre eux l'ont connu. C'est lui qui a écrit ce magnifique ouvrage, je ne sais pas si on l'a dans la bibliothèque, « Cette faucille d'or, rue de cette faucille d'or, là hein. ». Émile Lallière, donc, était venu dans le nord de la France pour une convention, c'était à Douai ou à Pécancourt, je ne sais plus, peu importe. Et on lui avait demandé à ce moment-là de parler d'Israël. Je ne sais plus ce qu'il avait dit, il avait dit de bonnes choses, mais ce qui m'avait frappé, ce que j'ai gardé jusqu'à ce jour, c'était son introduction. Il avait dit, on m'a demandé de parler d'Israël, et je le fais ici avec crainte et tremblement. Parce qu'Israël est un mystère, et parce que celui qui touche à Israël touche à la prunelle des yeux de Dieu. Il y a des choses extrêmement profondes, extrêmement difficiles à comprendre, et c'est toujours extrêmement délicat, extrêmement périlleux de parler de ce sujet. Et finalement, c'est par ces paroles de notre cher frère Émile Dallière, qui est dans la gloire du Seigneur depuis maintenant déjà longtemps, que je voudrais terminer ces études. J'ai commencé en disant aussi que je faisais ces études avec crainte et tremblement, hein, et pour cette même raison, finalement. Hein. Et finalement, on ne peut que conclure en reprenant ce que Paul écrit aux Romains. Hein. Il nous dit « Israël est un mystère ». Nous ne devons jamais oublier ce que Paul nous dit aussi, c'est que nous connaissons toujours en partie. Et notamment dans ce qui concerne Israël, il y a toute une part de mystère. Il y a des choses étonnantes, déroutantes. Je prends par exemple cette parole de Paul, toujours dans le chapitre 11 des Romains, où Paul dépeint à merveille ce qu'est le paradoxe d'Israël. Où il nous dit ceci, « À cause de vous, ils sont ennemis. Mais à cause de Dieu, à cause des pères, je veux dire, et à cause de l'élection, ils sont aimés. Et voilà, ici, on est en plein paradoxe. Bon, j'ai vérifié avec mon père, dans le grec, le mot « ennemi ». Et le mot « ennemi » a plusieurs sens possibles dans ce texte-là, toujours. « Ennemi », ça veut dire « ennemi », ils sont vos ennemis à vous. Bon, c'est vrai que parfois, les premiers chrétiens avaient à souffrir d'un certain nombre de juifs, dans l'exemple de l'apôtre Paul. Bon. Ah, étant vos ennemis, ils sont aussi ennemis de Dieu. Mais il peut y avoir aussi un autre sens, on ne sait pas finalement, c'est sans doute tous ces sens en même temps. Ils sont désagréables au Seigneur, quoi. Ils sont odieux, dit le bailli, le dictionnaire classique grec. Ils sont odieux aux yeux de Dieu. Et en même temps, ils sont aimés. Et en même temps, Paul dit, c'est à cause de vous. Et en fond, on retrouve un petit peu ce qu'on parlait du pédagogue. Dieu a freiné, en quelque sorte, l'accomplissement de ses plans et de ses desseins, parce qu'il voulait aussi faire miséricorde aux païens. Il a freiné ça jusqu'à un certain temps. Et il a mis le peuple d'Israël sous un pédagogue qui lui interdisait un certain nombre de choses. N'est-ce pas ? Et puis maintenant, Dieu a encore permis, n'est-ce pas, cet endurcissement partiel d'Israël pour vous, pour votre salut, pour que vous puissiez être sauvés. Si bien que les Juifs sont aujourd'hui, les Juifs non-croyants, sont dans une situation étonnante, déroutante. Ennemis et aimés. Bon. Et puis en même temps, dans une autre situation étonnante, il nous dit, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Il y a un reste qui est offert en quelque sorte au Seigneur, comme les prémices étaient offertes le lendemain de Pâques, dans le temple, et qui faisait finalement que tout le reste de la récolte allait être aussi en quelque sorte sanctifié. Et bien qu'étant loin de Dieu, parce qu'il y a déjà des Juifs qui croient en Jésus, ben les autres Juifs sont aussi potentiellement sanctifiés en quelque sorte. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Je vais pas essayer d'expliquer. Mais là, justement, on termine par ce texte, et là, je vais le lire, si vous voulez, dans Romains 11. Verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies incompréhensibles. » Le mot est important. Ses voies incompréhensibles. Bon, Paul nous dit ça, bien sûr, par rapport à l'action de Dieu en général. Bon, c'est ce que, en quelque sorte, Dieu disait à Job. Quand Job ne comprenait pas ses voies à son égard, il dit, mais regarde les merveilles, hein, c'est ce que Eliaou lui dit déjà. Et puis finalement, ensuite le Seigneur lui dit, et Job dit, bah oui, Seigneur, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent. Et le Seigneur lui fait ce reproche, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Je crois que c'est ce que notre frère Dallière avait peur quand il prenait toutes les précautions que j'ai dites. Il dit, je vous parle d'Israël avec crainte et tremblement parce que, enfin c'est moi qui ajoute ça, c'est pas lui qui a dit, mais je pense que si on avait discuté avec lui, c'est ce qu'il aurait voulu dire. Parce que particulièrement en ce qui concerne Israël, et là c'est quand même si Paul le dit en relation avec les voies de Dieu d'une manière générale, ici dans le contexte c'est plus en relation avec ce qu'il vient de dire d'Israël, le mystère. Eh bien, au travers d'Israël, Dieu a un plan, Dieu a des desseins, comme il avait dit par le prophète Ésaïe, des desseins de paix, non de malheur, hein, qui sont merveilleux. Et que finalement, l'homme ne peut pas connaître. Des voies qui sont incompréhensibles. Et finalement, comme disait votre archimandrite, vous les Occidentaux, vous cherchez à comprendre tous les mystères, c'est ça, quelque chose comme ça, il vous disait, hein, c'est ça? Tu répètes exactement la parole qu'il disait? C'était ça, hein. Ben, je crois qu'il faut que nous ayons l'humilité de dire nous connaissons en partie. C'est vrai que Le mystère d'Israël reste par bien des égards un mystère. C'est vrai que nous pouvons en parler comme Job, parler sans comprendre des merveilles qui nous dépassent. Et ce faisant, nous obscurcissons le dessein de Dieu. Et je crois que pendant les siècles qui sont écoulés, l'Église, quand elle a parlé d'Israël, a souvent obscurci les desseins de Dieu. Alors prenons garde, nous pouvons faire aussi. Et c'est pourquoi donc on a pris aussi toutes ces précautions, en disant ce que nous avons dit là n'est pas dogmatique. C'est un questionnement. C'est simplement un questionnement. Ne serait-ce que parce que justement, en tant que non-juif aussi, il y a des choses aussi qui nous dépassent. Les relations entre Dieu et Israël sont des relations particulières. Dieu nous a fait cette grâce extraordinaire, nous les païens, de nous associer pleinement, sans un pied d'égalité total, nous avons dit, aux grâces qui ont été faites à Israël. Et néanmoins, Dieu continue son dialogue avec Israël, et nous voit ici chez Paul, et le fera jusqu'à la fin. Et finalement, nous n'avons pas à interférer. Nous n'avons pas interféré dans ce dialogue. C'est une terre sainte dans laquelle, justement, il faut faire extrêmement attention. Nous n'avons pas à interférer comme, en quelque sorte, Dieu avait dit, plutôt Joseph avait dit à ses frères, vous savez, quand il s'était fait reconnaître à ses frères, ben, les Égyptiens, vous sortez. Là, il va y avoir un moment pénible, il va y avoir un moment d'humiliation pour les frères, vous n'avez pas à en être témoin. Et là, je crois qu'on arrive maintenant, de fait, vers les temps derniers, où le Seigneur, je pense qu'il se passe aussi actuellement, est une interpellation forte du Seigneur à son peuple. Alors peut-être, il peut y avoir parfois des chrétiens bien intentionnés qui veulent faire toutes sortes de choses pour aider Israël. C'est bien, c'est une bonne intention certainement, ils veulent bénir Israël et tout ça. Il faut faire attention, on peut faire beaucoup de bêtises. J'en ai vu qui en ont fait aussi beaucoup, tout en étant bien intentionnés. Parce que justement, on oublie ça, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Alors quand on parle d'Israël, et plus encore, quand on fait quelque chose pour Israël, il faut être assuré, assuré que c'est bien de Dieu. Autrement, on peut justement aussi, comme Job, obscurcir les desseins de Dieu. Obscurcir les desseins de Dieu par des actions, ou par des paroles, finalement, c'est le même en hébreu, davar, qui ne sont pas, qui obscurcissent, qui compliquent le plan de Dieu. Alors on voit justement l'extraordinaire précaution, l'extraordinaire prudence qu'il faut avoir justement quand on touche à Israël d'une manière ou d'une autre. Que ce soit bien entendu négativement par antisémitisme, comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui, et ça s'est fait dans l'histoire de l'Église, mais même, je dirais, dans le sens inverse. Voilà, si vous voulez, ce que je pouvais dire ce soir. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? On a-t-il... Oui.
L'homme soit éduqué par la Torah avant d'être chrétien.
Ouais.
C'est assez paradoxal parce qu'il était antisémite quand même, Luther.
Pas au début. Il est devenu antisémite. Au contraire, il pensait que les Juifs allaient se tourner vers Jésus grâce à son évangile. D'ailleurs, à la Réforme, il y a eu une certaine rejudaïsation de l'évangile. Et c'est quand il a vu que les Juifs ne mordaient pas qu'il est devenu antisémite. Mais au début, il n'était pas. Au début, il n'était pas. La Didaké, ça existe, oui. Didaké, c'est un texte juif chrétien du 1er siècle. C'est le plus ancien écrit qui existe après le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de relations avec l'Épître aux Hébreux et donc beaucoup de relations aussi avec Qumran. Il semble que, notamment après la ruine de Jérusalem, beaucoup de Décéniens, si tant est qu'il s'agisse d'Décéniens, se sont convertis au christianisme. Et donc, il n'y a rien d'hérétique. On a hésité à le mettre au canon du Nouveau Testament. Finalement, ça aurait pu être. Ça n'a pas été parce que c'était un écrit qui datait d'après l'âge apostolique. Par conséquent, on a considéré qu'avec la disparition du premier apôtre, le temps du canon était clos, quoi. Mais on en a discuté. Ça a été discuté. On peut le trouver. On l'a pas en bibliothèque. Non. Peut-être qu'on pourrait le prendre justement pour essayer de l'avoir. Bon, c'est un petit livre. Hein. C'est pas gros. Non. Ça peut se trouver. Bien.